Sono le 22:30.
I love you so.
Radio Libertaire, salut, bonsoir, il est 21h presque 10 et tu me vois à travers ton poste de radio, quoi que ce soit, où tu m'écoutes, chevaucher un poney rose, voilà, j'ai loupé mon intro. Mon intro qui était le refrain du groupe The Homosexuals. Salut, c'est les vieux homosexuels de Radio Libertaire sur Radio Libertaire. C'est le vendredi soir comme d'habitude et nous sommes le vendredi 4 août 2023. Souviens-toi-en. Salut Serge.
Salut Henrik.
Salut Guy.
Salut Henrik.
Alors non, Guy il est pas homosexuel. Hein.
J'allais faire la réflexion, je m'étonnais qu'il râle pas.
Bah, il s'en fout complètement, il écoute même pas. Il doit certainement préparer ses articles d'anarchiste. Et j'ai mon... j'ai décidé de faire attention au potard et au son, au niveau sonore des micros, parce qu'il y a aux enregistrements quand je remonte, quelquefois j'ai des surprises. Et bonsoir Yves.
Bonsoir.
Alors toi, il faut que je remonte.
Remonte pas plus, là, ça suffit, là.
Non, parce que c'est souvent toi qui es le plus bas, en fait.
Non, mais là, depuis la dernière fois, je suis très haut.
Non, le niveau sonore, pas ce que t'entends dans le casque. Faut tout lui expliquer.
C'est différent.
Tu sens que je devrais entendre quelque chose dans le casque.
Tu sens, Yves, que c'est haut.
Non, ok, donc, je disais, bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir les auditeurs, les auditrices, le peu qui reste.
Et il y en a.
Ouais, oui, c'est sûr, là, on croule. On vient de nouveau ensemble pour tailler le bout de gras, bavarder, écouter de la musique, etc. Faire de la radio. Sur 89.4, c'est sur la bande FM parisienne. Radio-libertaire.org, anarchiste.info, ça c'est pour internet, et bientôt le DAB+, sur le DAB+, quoi.
Voilà.
Alors...
T'allais dire quoi ?
Je sais pas par quoi commencer, en fait. Est-ce qu'on commence tout de suite ? Est-ce que...
Non, tu peux nous envoyer encore un disque. J'aime bien l'appellation. C'est The Homosexuals, le groupe.
The Homosexuals. Homosexuals.
Ah, carrément.
The Homosexuals. Ouais, carrément, oui. Ouais.
C'est génial.
C'est sympa, ça fait partie. Donc, on va commencer par ça. Comme ça sera fait.
Oui.
Il sort énorme. Attends, j'enlève le blouson là parce que j'avais un peu froid tout à l'heure. Je suis fragile. Et là, maintenant, j'ai un peu chaud. Alors, il fait bon dans le studio. Hein. Ça fait du bien quand il fait frais dehors, mais inversement, c'est pas...
Non, je signale aux auditeurs que j'ai prêté mon blouson.
Oh, ça va, ça suffit. toujours en train de se donner le beau rôle.
Ah, ouais. Bien sûr, voilà. Bonjour la réputation, merci.
Mais arrête de tirer la couverture à toi. Pas le blouson à toi. Arrête. Alors, donc, on va faire tout de suite le... Est-ce que j'ai calé un morceau pour... Ok, j'ai calé un morceau pour... Il s'agit d'une compilation anglaise qui est parue en 2019 et éditée par l'association Manchester Mad Pride, qui est en fait une association. Et cette compilation, elle a été faite pour une collecte de fonds entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, pour le réseau de résistance en santé, de santé mentale, qu'ils déforment, qu'ils incarnent. Et elle est dédiée donc à son créateur Robert Delard, qui est décédé en 2016, qui est le fondateur donc de ce mouvement Manchester Mad, ou je crois que ça s'appelle comme ça, je pense, qui est donc le fondateur du mouvement de protestation culturelle Mad Pride, qui est à l'avant-garde des causes des survivants, c'est bien ça, de la santé mentale. Alors je suppose que c'est des gens qui sont contre un peu le système psychiatrique tel qu'il est existant et qui ont eu affaire à lui et qui étaient en lutte contre le système. Et donc là, dans le cas occurrent, le système de santé mentale anglais est également dédié à John Chas Several, décédé en 2014, qui était lui un compositeur sonore diagnostiqué bipolaire et schizophrène, je crois. Ce que j'ai vu, bipolaire dans la traduction, mais schizophrène dans la version originale. Donc. Je ne sais pas si c'est la traduction, le logiciel de traduction qui a merdé. En tout cas, voilà, il y a... le bonheur d'écouter une compilation, c'est qu'il y a plein d'artistes différents et ça va faire la programmation musicale jusqu'à environ 23h 27 28 exactement. Comme ça, ça nous laissera le temps de laisser venir et s'installer Sure Shot, les hip-hoppers du vendredi soir qui sont de retour, mais je parlerai plus tard de la pièce sonore que nous écouterons à ce moment-là. Allez, musique. We'll be right back. Radio Libertaire, je l'ai déjà dit, à The Post Non Radio Show, ça par contre je ne l'ai pas dit. Et donc c'est la bande des quatre du Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Alors j'avais omis de dire aussi autre chose, mais je sais déjà plus quoi. Fantastique.
Non, en tout cas, la version de Feel Love de Donna Summer qu'on vient d'entendre est remarquable. Remarquable. Ouais, et on sent vraiment. Alors, je ne sais pas si le chanteur est professionnel ou si c'est simplement des personnes qui sont. Qui ont des troubles mentaux, qui ont chanté sur cette musique, sur cette base musicale. En tout cas, c'est remarquable.
Eh bien.
Ah oui, oui, c'est remarquable. Bon.
Alors, par quoi commence-t-on ? J'allais dire un truc, mais comme je disais, je m'en souviens plus. Ça avait un lien avec la compilation, je ne sais plus. Bref.
Bah, tu voulais dire peut-être le titre, l'interprète peut-être du titre qu'on vient d'entendre.
Bah, c'est A Feel Love et... Et les gens qui chantaient ça s'appellent Disco Mental, tout simplement.
Ah bah voilà, je comprends mieux.
Voilà. Oui. Donc, où est-ce que nous en étions ? Où est-ce que nous en étions ? C'est la bande des quatre, sur Radio Libertaire.
Ah, tu peux demander la parole à Guy, tu peux demander la parole à Yves.
Donner. Sur le 89.4.
C'est donné.
C'est donné par repris. Par Guy, peut-être ?
Pas repris, alors quelques fois si. Qui veut nous enchanter de ces petites trouvailles de la semaine ?
Bah oui, c'est pas une petite trouvaille.
Alors le club, c'est de, intéressant, c'est intéressant. Club de lecture commence.
Voici plusieurs articles, mais alors, je peux dedans en tirer quelques-uns de très bons.
Bah vas-y.
Ça s'appelle... c'est sous-titré. Hein.
Nous t'écoutons.
Je ne vais pas donner de grand titre. Du pain, il faut du pain à la Révolution. Ah, ça veut dire déjà que la Révolution est proche. Et alors, il y a des personnes qui ont sorti déjà eh bien, un petit guide pratique de guérilla jardinière.
Oui.
Ah bah oui, on entend parler que partout, en ville hein, notamment, on va faire des jardins, etc. On va tout produire pratiquement dans les villes, quoi. Hein. Mais non, il n'y aura pas assez de surface, hein. c'est évident. Mais... Bon, il y a peut-être des doux rêveurs aussi, hein. C'est possible.
Oui, c'est vrai que c'est un peu idéaliste, mais bon.
Oui, c'est idéaliste.
Mais continuons à faire effectivement de la végétalisation dans les villes, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ça qui va.
Oui, ça n'empêche pas, tu as raison.
Mais c'est pas ça qui va. Est-ce que ce sera vraiment ça qui va donner de l'oxygène à nos villes, notamment
non,
la ville de Paris ?
Ça peut être le point de départ. Voilà, oui. Alors, il parle d'un petit guide pratique de la guérilla jardinière qui existait déjà il y a 19 ans, Sème la Terre, entre guillemets, c'est marqué, Sème la Terre, lançait le petit guide pratique de guérilla jardinière. Il y a 19 ans, hein ? Oui,
déjà. Voilà.
Donc on peut dire, je sais pas, 2003 exactement, si on veut. Alors, 2002 même. Alors que se cache-t-il derrière notre assiette ? Alors avertissement, ce qui suit n'est qu'une courte perspective critique face à l'industrie agroalimentaire. Ben, c'est bien ce qu'on disait, quoi. Faut commencer à bouger les choses et à faire face. Tout au moins à l'industrie agroalimentaire. Chaque argument mériterait d'être détaillé longuement pour ne pas être assimilé à de la simple propagande. Alors, de nombreux ouvrages politiques, hein, scientifiques, historiques le font très bien. Vous trouverez donc en note un certain nombre de références. Vous trouverez plus d'informations. Alors, la production alimentaire capitaliste implique entre autres un usage massif de pétrole, de pesticides, d'emballages plastiques, le transport des aliments sur des milliers de kilomètres, la réduction de la biodiversité, la destruction des sols, oui, des cours d'eau, la mise en esclavage de millions de sans-papiers, des pauvres, en Europe et dans le monde. Et accepter le contrôle des ressources alimentaires par quelques grands groupes industriels est un suicide social, écologique et sanitaire à court terme. Ouf. Bon, c'est pas encourageant, hein, quand même. Serge,
je suis.
Là, c'est, oui, ça commence à tirer de tous les côtés. Suis,
mais ils ont pas tort. Effectivement, bon, on retrouve effectivement la poignée de gens minoritaires sur Terre qui ont le maximum.
Oui, oui.
Voilà, c'est surtout ça, quoi.
Mais ça tourne toujours comme ça. Quoi.
Ça tourne toujours comme ça, et ça, malheureusement, ça change pas. Ça ne change pas.
Si, ça augmente.
Oui, voilà, exactement. Exactement.
Alors, les millions qu'ils dépensent en propagande pour laver le cerveau des consommateurs, consommatrices, ils le sont encore récemment autoproclamés. Industriels de la protection des plantes, nous ne ferons pas oublier que les Dupont, Syngenta, Monsanto, Novartis, Bayer et autres Dole sont en fait parmi les plus grands criminels et pollueurs de la planète. Détenant industrie pharmaceutique, production de semences, de produits chimiques et d'armements. Ah, tout ça, ça va ensemble. Hein.
Ah oui, d'accord, oui.
Ah, il faut déjà le digérer, ça. Hein, c'est...
déjà, mais de manière, ils font déjà la guerre avec des produits chimiques. Hein, donc, voilà.
Oui, donc, pour production d'armements, c'est pas idiot de l'autre côté. Hein.
Voilà.
Alors... Hors des pays riches, le développement de l'agriculture industrielle et productiviste ruine les modes d'agriculture vivrière et fait disparaître les paysans, paysannes. Il faut mettre les uns et les autres parce que sinon, on ne sait plus qu'on a un mode d'expression masculinisé. Enfin, à l'origine, ce n'est pas masculinisé hein, par le latin. C'est ça qu'il faut aller revoir au début, comment ça fonctionnait, et on comprendrait mieux pourquoi on parle au masculin, voilà. Mais ça, je sais pas, les gens ne le font pas. Alors, et ça me semble bizarre pour moi de sortir du masculin, du féminin à chaque truc, comme tu dis, cher français, et que tu oublies les chères françaises derrière, ben non, la langue française, c'est ça... Quand on dit cher français, ça englobe et le masculin et le féminin, c'est tout. Il n'y a pas à doubler et à répéter bêtement les mots. Alors donc, la moitié de la population mondiale ne vit pas dans les villes. Quand même encore, hein, parce qu'on commence oui. à dire que de plus en plus, hein, de plus en plus, effectivement, il y a un resserrement vers les villes.
Ah, il y a des grosses agglomérations, mais...
Ouais, il y a des grosses agglomérations, mais quand même, heureusement...
Mais quand même, il y a des gens qui vivent en milieu rural, la moitié des gens vivent en milieu rural, c'est important.
Voilà, ouais. Alors, parce que sinon, vers la population, vers les villes, effectivement, ça les exile par millions vers des bidonvilles, tout autour des villes, donc, et toute cette population ne peut subvenir à ses besoins. La minorité qui conserve une exploitation agricole devient totalement dépendante de la machine, de la chimie, des grands groupes et de leur volonté. Mmh. Ils produisent en masse des plantes destinées à l'exportation et à la grande distribution, abusant souvent de sans terre pour les basses tâches. L'expansion du mode de production industrielle dans les pays du Sud est ainsi responsable d'exodes et de famines massives. Il détruit les communautés et les pratiques sociales qui échappent encore aux logiques de compétition et de profit. Alors dans les pays riches, eh bien les quelques agriculteurs qui subsistent, hein, et qui subsistent se concentrent, hein, et concentrent leurs terres, ils se regroupent, deviennent de simples agents techniques sous contrôle. Oui, mais ils sont souvent plus maintenant même possesseurs de leurs terres, ils les louent et voilà. Alors l'industrie biotechnologique parfait ce système totalitaire en produisant des semences stériles et des OGM qui vont se croiser avec les autres espèces et rendent toute autre forme d'agriculture inenvisageable. Et ce, avec qui il est aujourd'hui totalement impossible de calculer les dangers et de stopper, après coup, la pollution génétique. Voilà, ce qui fait que, effectivement, même les agriculteurs maintenant n'ont plus la main sur, eh bien, sur leurs semences. Voilà, parce qu'avant, moi, j'ai travaillé en ferme, alors je sais. Mm-hmm. Souvent, eh bien, tous les ans, hein, pour les pommes de terre ou soit d'autres choses comme le blé, etc., on faisait soi-même ces sélections et ces semences. Voilà. Et ben, ça, c'est plus possible. Voilà, parce que ben, il y a des droits maintenant, il y a des brevets, il y a tout ci et tout ça. Donc, puis les OGM qui font que de toute façon on ne pourra pas réutiliser ces semences-là, puisque donc OGM, eh bien, faut passer par les laboratoires pour en recevoir de nouvelles. Voilà, donc c'est une première partie qui lance un peu. Après, il y a plein d'autres sujets comme ça qui sont très très intéressants. De la suite, hein, de ces explications et toujours comment faire un petit peu tout autour. Mais ça, on peut le laisser au lecteur. Je pense déjà au niveau de l'introduction de ce manifeste pour des actions coordonnées de guérilla jardinière, de résistance à l'industrie agroalimentaire. C'est déjà pas mal.
Guérilla jardinière, ouais. Moi, là, subitement, j'ai une image en tête de gens lançant des pots de fleurs et des poireaux et des cagettes de tomates à la gueule de flics qui leur répondent à coups de LBD et de... dans la gueule, quoi, je veux dire. C'est un peu disproportionné, quoi.
Ah oui, oui,
là... La guérilla potagère, là.
Oui.
Non, je plaisante, c'était pour faire de l'humour à la con.
Pas si con que ça.
Merci, c'est...
J'adore, c'est... Je te lèche les bottes, comme c'est pas possible, même si non, t'as pas les bottes, t'as plutôt des baskets.
Mais je sais que tu abondes toujours dans mon sens, c'est formidable. Tu resteras pour la saison 1254 sur Radio Liberté. Alors, Yves... qui, oui. Lui, est sur une pente savonneuse, on ne sait pas. Le mercato n'est pas encore commencé.
Eh ben, on va savoir, oui.
On sait peu tendre, mais en attendant, as-tu une... Oh, j'ai chaud subitement. Non, mais là, je trouve qu'il fait chaud.
Oui.
C'est parce que je vais parler.
Ah, peut-être.
Non, alors justement, est-ce que tu... Voilà, je te laisse la parole.
Bon, ben, j'ai un tout petit truc, histoire de pas trop effrayer les foules, qui s'appelle Délire de Faciès, c'est le canard enchaîné du 19 juillet 23. Et ça commence par encore un qui veut tuer le métier, il s'agit de Patrick Weil, historien spécialiste de l'immigration, qu'on connaît bien en France, et qui propose que les flics cessent de procéder à des contrôles d'identité.
Alors, qui c'est qu'on connaît bien, l'immigration ou Patrick Weil ?
Patrick Weil.
Alors ça me dit quelque chose, mais il faudrait que je vois sa photo.
Ok. Dans l'opinion du 12 juillet, il estime qu'en multipliant les contrôles d'identité, on crée la division et un stigmate insensé à l'encontre d'une masse de compatriotes. On peut ajouter, pour expliciter un petit peu, qu'en fait ces contrôles d'identité ont lieu seulement dans certaines banlieues qu'on qualifie forcément de problématiques, puisque c'est là que ça se passe, disons. Où donc le directeur de recherche au CNRS est-il allé chercher tout ça ? À New York, où il enseigne. En 2014, après une série de bavures mortelles, le maire de la ville, Bill de Blasio, a ordonné à ses troupes de stopper net tout contrôle aux faciès. Résultat, la criminalité, loin d'augmenter, a alors baissé. Et le canard, qui est toujours aussi méchant, ajoute simplement parce que les policiers se sont concentrés sur les gros méchants plutôt que de faire la chasse aux petits délinquants. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faut bosser, chef, point d'interrogation. Bon, voilà. C'était en fait... pour faire ma petite provoque. Oui. Mais, effectivement, ces contrôles d'identité, au début où...
En même temps, il n'a pas tort. Hein.
Au début où Valls était... Premier ministre, il avait été acté dans le programme du président sur lequel il a été exercé qu'il devait y avoir un petit papier qui était donné à chaque personne si elle faisait l'objet d'un contrôle d'identité. Valls, nommé ministre de la police, avait, de l'intérieur, avait immédiatement mis sous le boisseau ce truc en disant que ça n'était pas possible. Et donc ça ne s'est pas fait. Alors maintenant, on est dans un système éventuellement de petites caméras. J'ai lu récemment qu'il y avait un policier qui répondait à l'IGPN « Ben non, ma caméra s'est pas mis en marche parce que bon, ben, il n'y avait plus de batterie. » Bon, d'accord. Bon, je ne vais pas en ajouter davantage. La technologie est une chose bien compliquée.
Puis, on ne devrait pas faire des contrôles comme ça, d'identité, sous oui. prétexte qu'on est dans une banlieue. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison.
Non, mais même ailleurs, il n'y a pas de raison.
Le problème, c'est qu'il s'est installé un face-à-face complètement absurde entre, dans certaines banlieues, entre la police et puis des jeunes, qui n'en peuvent plus d'être contrôlés apparemment pour pas grand-chose, disons. Et écoutez.
Mais ailleurs non plus, s'il n'y a pas de grabuge, etc.
Le problème est
quoi? Pourquoi contrôler les gens, quoi? T'es en ville, machin. Moi, je dois avouer que je n'ai jamais été. J'ai pas souvenir d'avoir été contrôlé, mais s'il n'y a pas de grabuge, etc., pourquoi il y aurait des contrôles, quoi?
Moi, j'ai été contrôlé quand j'avais entre 20 et 30 ans, une fois ou deux, et depuis plus jamais. Bon.
Ouais.
Je dois pas avoir le look.
Un deuxième article?
Non, on va se faire une pause.
On va se faire une pause, d'accord.
Un deuxième article de quoi, Yves?
Oui, fais le teasing.
On m'a dit non, je, non, moi je respecte.
Mais non, fais le teasing, dis-moi,
dis-nous,
de quoi ça va parler.
J'ai plusieurs choix possibles. Il y a Johnny Hallyday qui touche encore des subventions.
Ah oui, ça on va le faire.
Je croyais qu'il était mort, merde.
Ça on va le faire. Est-ce qu'on a...
J'ai un truc qui s'appelle « Vous reprendrez bien une dose d'herbicide ». J'ai un truc sur comment s'est passé finalement ce problème entre la police et puis ce jeune homme qui a le crâne à moitié enlevé pour que le cerveau puisse se remettre du coup qu'il a reçu, du coup du LBD qu'il a reçu.
Donc okay. Voilà. Attends, okay. On voit ça après la pause.
On voit ça après
musicale.
La pause. Voilà.
Stay!
Radio Libertaire. Radio Libertaire. Alors oui, on reprend là nos petites affaires. Et justement, si tu me laisses...
Oui, oui, je te laisse.
J'ai un...
Un chat dans la gorge.
Oh, puis un gros. Hein.
Un gros, ouais.
Un très gros.
Un gros miaou.
Ouais. Avec les poils, les pattes et la queue, tu vois.
Voilà. Surtout la queue.
Oh, Serge. Serge. Alors, c'est toi qui m'as fait découvrir cet article dans le Canard de cette semaine, Yves. Mais j'aimerais bien quand même... j'ai pas allumé le micro de Guy. J'aimerais bien en parler parce que...
Oui, vas-y.
Je le trouve...
D'autant plus que l'article que tu as trouvé dans le Figaro et qui reprend les informations est plus complet, à vrai dire.
Et il est assez limpide, alors je vais essayer de... Bon, je vais le lire, mais c'est vrai, il n'est pas trop long, enfin, quand même.
Ah, l'article du Figaro aussi, il est beaucoup plus long.
Il est long.
Ben, tu vas voir, tu vas voir.
Ouais, bon, en gros, ah oui, c'est vrai. Tu veux nous... Tu veux lire alors celui du... C'est vrai, tu as raison. Tu veux peut-être nous lire celui du...
Ah.
Celui du Canard.
Ouais, Canard. Bah, c'est un titre, Johnny touche encore des subventions. Wow, sacré Johnny. Alors, ça commence par la maison de disques de Johnny Hallyday.
Si on en parle, c'est parce que ça concerne la musique... Et c'était quelque chose que je ne savais absolument pas. Je ne savais pas du tout que ça existait.
Bah si, on comprend que ça existe grâce à l'article du Figaro, parce que l'article du Figaro détaille un petit peu comment taxe a été mise en place. C'est-à-dire, c'est d'abord...
Alors en fait, cette aide à la création... Alors, en gros, c'est... Je te laisse après lire l'article du Canard. Les aides à la création... doivent remplir le rôle d'aide à de jeunes artistes en devenir, en fait. Et donc cet argent est versé aux maisons de disques, aux labels. Mmh. Voilà. À toi, Yves.
Alors, au début, je ne vais pas reprendre tout de suite l'article du Canard, mais au début, c'est une taxe qui a été mise en place concernant les CD-ROM et les DVD à graver. Et puis la redevance s'est étendue aux disques durs externes, aux clés USB, aux cartes mémoire, aux baladeurs MP3, aux box internet, aux téléviseurs avec mémoire, aux tablettes et enfin aux smartphones. La vente de ces derniers constituant la plus grande part des sommes collectées.
Je prends 14 euros par smartphone.
Je prends ça dans le Figaro. Alors effectivement, il y a une somme de 14 euros par smartphone qui nous donne le droit de copier la musique notamment. À l'heure où il y a Deezer et YouTube, c'était des chargements au moins le vent en poupe, mais enfin la taxe est restée.
Et pour 2022, ça représente donc pour cette redevance de la copie privée à 300 millions d'euros, dont 170 millions au titre des droits du sonore qui va donc à l'industrie musicale. À toi, Yves. Yves.
Je cherche à trouver ce chiffre-là.
Je l'ai trouvé dans l'article du Figaro.
D'accord. Donc, la Cour des comptes, dont c'est le travail, se penche récemment sur les fameuses actions culturelles. Et surprise, si les aides soutiennent les chanteurs émergents, elles vont d'abord au plus gros. Le Collège de contrôle s'interroge, donc la Cour des comptes, sur l'utilité d'aides importantes attribuées à des projets portés par des artistes installés et dont l'équilibre économique ne paraît pas nécessiter de soutien particulier. En effet, Johnny Hallyday a perçu entre 2019 et 2022 400 000 euros pour des nouveaux projets liés à l'artiste, près de 6 ans après son décès. Son génie créatif est toujours aussi actif. C'est relativement assez incongru. C'est parfaitement légal, mais là, la Cour des comptes a tendance à critiquer.
Et là, il s'avère qu'en effet, c'est à la limite que ce soit pour un artiste encore vivant. Mais alors, il est mort depuis 2017.
Bon, mais il y a toujours des nouveaux projets.
Oui, des nouveaux projets.
Et voilà, donc, en 2021...
Initiés par de toujours Vautour, quoi.
En 2021, ça c'est l'article du Canard, les 5 budgets les plus élevés ont été attribués à la réalisation des CD de Florent Pannier pour 271 250 euros, des Enfoirés, 189 863, de Juliette Armanet, 153 749, de Bernard Lavillier, 120 131.
Même Bernard Lavillier.
Et de Benjamin Biolay, 118 680 euros. Des projets d'albums d'artistes décédés ont même été aidés, à l'instar de ceux de Michel Delpech ou de Johnny Hallyday, qui a touché 333 890 euros entre 2019 et 2021. Bon, alors, le principe, c'est plus une maison de disques encaisse, plus elle a droit de subventionner des projets. Et donc, pour la Cour des comptes, il ne devrait pas exister de corrélation directe entre le montant des droits générés et les aides attribuées. C'est le principe même de l'action artistique et culturelle. Alors, le Canard a mis le bec dans les chiffres 2022 de la SCPP, Société de l'industrie du disque dispensatrice de ces aides, et parmi les artistes les plus subventionnés, peu de nouvelles stars. Indochine, 188 000 euros pour un livre disque. Pardon, pour un disque live. Ah, bah ça arrive.
Louise aurait pu être un livre disque. Hein,
ça aurait pu. c'est sans doute parce qu'on m'en a offert un récemment, mais bon. Alors, Louise Attaque.
Attends.
160 701.
Ça va certainement pas aller à l'artiste, puisqu'il s'agit de Nina Simone, qui est morte il y a déjà un bout de temps.
J'ai pas parlé de Nina Simone.
Oui, non, mais tu parlais de ton cadeau.
Ah oui.
Bref, passons.
Ah, mais il y en a qui savent fou, décidément. Aya Nakamura, 156 866. Benjamin Biolay, 141 858. Ce qui le place de nouveau dans le top 5. Juste derrière eux, deux débutants. Étienne Dao, 138 085 euros. Adamo, encore lui, 129 780 euros pour un nouveau projet.
Ah, attends, j'ouvre une parenthèse. Voilà. Cette redevance qui est versé automatiquement aux sociétés de droits d'auteur, et alors là c'est l'article du Figaro, est partagé entre les ayants droit, c'est-à-dire artistes, producteurs et maisons de disques, qui en reçoivent les trois quarts, le quart restant servant normalement à subventionner, ouvrez les guillemets, des actions culturelles, rappelle la Cour des comptes. En première ligne, la Société Civile des Producteurs Phonographiques, la CSPP, qui représente les gros éditeurs comme Sony Music, Universal ou encore Warner. Mais tu te demandes, c'est pas possible que ce fric aille à ces gens-là. Bon, voilà.
Qui ont largement les moyens de faire de la création.
Qui ont largement les moyens, d'une part, et la Société des Producteurs de Phonogrammes de France, la SPPF, pour les labels indépendants, d'autre part. Donc, toutes deux défendent leur système d'attribution d'aide à la création, sur lequel elles ont la main haute. Voilà. La CSPP affirme que la création, même portée par des artistes confirmés, représente un risque. Bah, quand même un peu moindre que des artistes émergents, hein. Puis bon, quand
oui,
même,
oui, oui.
C'est quand même des gens, là, avec tous les exemples donnés, qui vendent beaucoup de disques. Alors, ça paraît complètement étonnant. D'autant plus que leur projet coûte plus cher. Donc, c'est ces fameux gros labels qui disent ça.
Oui.
Comme s'ils n'avaient pas 200 000 euros. Mmh. Hein. Bon, enfin, bref. La SPPF, elle, pour sa part, produit des chiffres qui se veulent éclairants. Selon elle, 90% des aides ont été attribuées à des projets d'une... Alors je rappelle que c'est les labels indépendants. Mmh. Ont été attribués à des projets de nouveaux talents, entre guillemets. Attention au micro, parce que nous, on peut pas faire une demande à cette redevance. Hein.
Ah d'accord.
Elle ajoute devoir faire face au risque de voir les artistes qui génèrent beaucoup de droits la quitter s'il estimait ne pas percevoir assez d'aide. Donc en plus, ces artistes qui bouffe allègrement au râtelier et sans en avoir forcément besoin, puisqu'ils ont vendu énormément de disques dans leur vie et leur carrière, en plus font du chantage.
Voilà,
alors si j'ai pas le droit aux aides, je me barre.
Alors en fait,
c'est déplorable.
La Cour des comptes n'a pas de pouvoir de contrainte, comme tu peux voir à la suite, et elle recommande à la SCPP et à la SPPF, c'est des noms de code, hein, de revoir la répartition de ces subsides,
oui,
pour revenir à leur objectif initial.
Oui.
Et pour cela, il faudrait réduire la part du budget d'action artistique et culturelle consacrée à des projets portés par des artistes confirmés et favoriser davantage les jeunes qui n'ont pas encore émergé. Et le Figaro conclut, le débat est ouvert. Il y a une différence de ton entre le Canard et puis le Figaro, c'est marrant parce qu'il termine sur ça. Et il s'appuie beaucoup sur l'article du Canard.
Comme oui, quoi, mais il en reste l'article du Figaro.
Il est plus complet, oui. Il explique bien.
Mais il en reste pas moins. Tu sens quand même que le journaliste est dubitatif. Sens que même lui, il s'interroge et entre les lignes, on se dit... il se dit, et nous avec, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi.
Non, mais Le Canard, c'est un journal satirique qui est là pour débusquer des trucs qui ne plaisent pas, alors que Le Figaro veut un journal d'opinion. Et donc, il propose éventuellement, il affiche ce qu'il pense. Voilà, le débat est ouvert. Il avance un peu plus vers une solution, ce que Le Canard ne fait pas. Ce que fait Le Canard, c'est qu'il montre un truc qui est ridicule, et puis voilà...
Enfin, ridicule, non.
Ridicule, c'est absurde.
Non, c'est pas de l'absurde, là, c'est de l'abus. On est dans l'ordre de l'abus. On est dans l'ordre de l'abus total et de l'extorsion. J'irais même jusqu'à dire de l'extorsion de fond.
Moi, je
La part de labels de musique extrêmement riche.
Moi, en plus,
extrêmement puissant.
Je télécharge pas de musique.
Inonde la planète de leurs produits, entre guillemets. Il y en a, mais pas tous, culturels. Hein,
de plus ou moins bonne qualité, en plus.
De plus ou moins bonne qualité dans la forme et le fond. Et qui, en plus, se permettent de sucer des fonds publics et honteusement, pour en plus des artistes qui sont là depuis. Alors, même Bernard Lavilliers, alors là, je suis écœuré. Je croyais que Bernard Lavilliers était quand même un poil plus intègre. Et pour des artistes qui sont là depuis 40 ans.
Non, mais il n'y a pas de malhonnêteté
qui ont aucun problème.
Part des artistes, c'est le système qui est comme ça. Ils n'y sont pour rien.
Tu as bien lu cette phrase où ils disent que certains artistes, ils n'ont pas leur aide pour faire leur disque.
Bah, c'est évident.
Attends, ils font du chantage. Excuse-moi, ils sont déjà sur des gros labels qui leur donnent les moyens de payer des studios, des musiciens, des graphistes, des gens qui font des pochettes, etc. Et en plus, ils se plaignent. Magnifique.
Moi, j'ai vu apparaître cette taxe sur les CD, je me rappelle très bien.
Je trouve ça désastreux.
Et
quoi.
Bon, à l'époque, ça m'amusait un peu de payer quelques centimes sur un CD. Bon, c'était rien du tout sur un DVD. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça avait été étendu au fur et à mesure à tous les supports que j'ai cités tout à l'heure, jusqu'à arriver à une somme de 14 euros. Alors, je ne sais pas pourquoi 14, peut-être qu'il y a un plafond par smartphone.
Alors, cette taxe est en plus de la TVA. Donc, en plus de la TVA, tu payes cette taxe sur tout, les cartes SD, les clés USB, tout support où tu peux enregistrer quelque chose.
C'est-à-dire que le texte, il est devenu un petit peu obsolète, puisque maintenant, on a Deezer, on a YouTube, et donc les téléchargements, on n'en fait plus, quoi. On écoute directement.
Ouais.
Bon, donc,
des copies, tu veux dire.
Il faudrait peut-être retoiletter ce texte qui date d'une période où il n'y avait pas encore les smartphones, où il n'y avait pas encore à l'origine de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, à savoir les box, etc. Quoi.
Bah là, on vient au problème des artistes qui se plaignent des plateformes de streaming, Deezer, Spotify, entre autres, où ils disent qu'ils ne sont absolument pas... il n'y a aucune rémunération, et s'il y a, c'est de l'ordre du centime, quoi. Voilà, allez, musique.
forgotten what life was like before, or how I must have thought years ago. I've forgotten who I am. I am nobody. What's the point of becoming a me if nobody wants me? I am my own worst enemy. Nobody could dislike me as much as I do. I've forgotten what my life was like before. The weight of the world descended on my shoulders, and stress and anxiety made themselves known to me. Sure, I should have laughed more, gone out more, met new people more. Before. I can't go back. I must go forward. There's nothing to go back to. Anyway, it's all gone. I can't go back to a life that I can't remember. A non-person. Someone hidden that nobody looks for. A nobody. A waste of space. A nothing. That's me. I love Sidney Nolan's painting of an artist in a landscape.
Thank you.
C'est joli. C'est beau.
Oui, Daniel Dax Numb Companions. Et juste avant, il y avait David Hoyle. C'était moins sympa. Enfin, je veux dire, dans l'atmosphère, l'ambiance, c'était beaucoup plus tourmenté. Alors, les enfants.
Moi, j'ai un article qui m'a beaucoup intéressé. C'est un article d'humeur, vraiment d'humeur, écrit par M. Loïc Le Froc Prigent.
Prigent.
Le froc Prigent. Vous êtes très drôle, j'ai adoré. Et donc, il rappelle que le 1er août, les prix de l'électricité ont augmenté de 10%.
Oui.
Ce monsieur, il a été ancien président de Gaz de France. Il est ingénieur. Il a été président de la SNCF également. Et il écrit un article d'humeur dont j'ai envie de vous parler parce qu'il dit que on a eu la surprise que le gouvernement, comme observateur, semblait ignorer que depuis des mois, les entreprises et surtout les industriels et artisans se battaient avec des factures non pas de relèvement de 10 ou 25% comme les particuliers, mais de 300 à 600%. On se rappelle les boulangers à un moment. Et que ces entreprises... Oui, mais 300 à 600%, c'est pas tout le monde.
Non, il n'y a pas que les boulangers, il y a les bars,
Et ces entreprises sont également françaises, mais le bouclier dont les ministres se glorifient en disant qu'il a protégé les Français n'a été généralisé que pour les particuliers et quelques autres, soit la moitié de la consommation électrique nationale, mais les autres souffrent, ont souffert, continuent à souffrir et demandent grâce depuis plus d'un an déjà. Le nombre de faillites s'accélère, dit-il, les artisans ont déjà fermé, d'autres s'y préparent et les productions déménagent ou s'y préparent pour les mois à venir. Et ça, c'est la réalité de l'augmentation rapide et immodérée du prix de l'électricité. Et la position de la plupart des acteurs du secteur énergétique, c'est que le marché de l'électricité, créé pour nous, Français, dans les années 2000, dans un cadre européen, nous a mis dès le départ, avec la loi NOM, en 2010, dans une situation difficile, mais que désormais, c'est la compétitivité de l'ensemble de l'industrie française qui est en cause, car nous payons l'électricité la plus chère d'Europe, alors que nous la produisons au coût le plus faible, grâce à notre outil de production nucléaire et hydraulique. Et rentrer dans ce marché de l'électricité, il y a une quinzaine d'années, était un choix technocratique volontaire, contesté par les énergéticiens français, mais aucun traité n'existe qui nous y oblige, et surtout, nous pouvons nous en retirer lorsque nous voulons, sans contrevenir à nos signatures contraignantes. Ce choix a été préjudiciable à notre pays pendant 15 ans, et nous avons survécu, mais le contexte actuel conduit désormais au désastre. Nous avons protégé pendant un temps court les particuliers, mais ils viennent de connaître deux augmentations, 15% en février, 10% au mois d'août. Ils savent que c'est pas fini, alors que le coût de cette mesure se compte en milliards et qu'ils sont aussi des contribuables, tandis que les industriels et artisans ne voient pas le bout du tunnel avec des contrats qu'on leur propose sur 2 ou 3 ans qui mangent leurs marges sans qu'ils puissent répercuter les augmentations chez les clients. Et donc se retirer du marché de l'électricité est donc une nécessité et les réticences, dit-il, du gouvernement à le faire sont inexpliquées, inexplicables et inexplicables rationnellement. D'autres pays, l'Espagne et le Portugal, pour le Portugal j'avais entendu parler, très rapide, donc d'autres pays, l'Espagne et le Portugal l'ont fait sans heurts comme il était prévu et nous pouvons le faire dans l'instant en mettant simplement en difficulté les fournisseurs entre guillemets fournisseurs, inventés par les technocrates qui ne fournissent rien, ne produisent pas, ne transportent rien, ne distribuent rien, qui ne font que spéculer. Et immédiatement, comme le demande le ministre de l'économie et le président du réseau de transport RTE, on pourrait rapprocher le prix à payer du coût effectif et donc retrouver notre compétitivité industrielle et rassurer tous nos compatriotes, contribuables et consommateurs d'électricité. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre pourquoi cette opération n'est pas réalisée rapidement. Notre pays ne retrouvera sa prospérité qu'avec une énergie abondante, bon marché et souveraine, souligne-t-il. Commençons par le bon marché, puisque nos coûts sont les plus bas. Ensuite, puisque certains pensent que nous risquons la pénurie, mettons-nous en ordre de marche pour utiliser tous nos moyens pour satisfaire les demandes futures. C'est loin d'être le cas, car nous insistons actuellement sur les énergies dites renouvelables, à la mode éolienne et solaire, à la mode entre guillemets, alors qu'elles sont intermittentes, et pour les éoliennes aléatoires, au détriment de toutes les autres solutions, comme par exemple la méthanisation agricole, l'hydraulique, qui elles sont pilotables. Nous devons passer les pics de consommation, et cela doit être notre priorité. Enfin, dans la mesure où nous souhaitons demeurer souverains, n'exagérons pas la rapidité du changement vers l'électrique. Véhicules comme pompes à chaleur, restons le temps qu'il faut en cohabitation avec les automobiles thermiques et le chauffage au gaz. Des décisions évidentes et un peu de cohérence dans les orientations ne nuiraient pas à une bonne préparation de l'avenir. Et surtout, gardons notre tissu industriel, nous en avons besoin, nous en aurons besoin.
Il y a souvent, parfois, certaines personnalités ont mis en avant, par exemple, la nationalisation, la renationalisation d'EDF, oui, par exemple.
C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Voilà, justement, parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la solution. Parce que là, c'est pas possible de payer des prix comme ça d'électricité. L'électricité, c'est un bien public, c'est un bien nécessaire, c'est un besoin vital. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a ces augmentations, je ne comprends pas.
Ben, c'est parce que dans le système dans lequel nous avons accepté d'entrer, on paye le prix de l'énergie au prix de la dernière énergie qui vient suppléer la dernière tranche qu'on met en route quand il y a un trou dans la production d'énergie, quand il y a le moment qu'on peut, on met une centrale à charbon ou à gaz en marche supplémentaire. Et donc, c'est le coût de cette dernière, de ce dernier truc qui l'emporte. Donc, on paye le double par rapport à ce qu'on paye l'énergie nucléaire. On paye en fait le prix du gaz. Mmh. En plus, on revend de l'énergie nucléaire. Bon, EDF est obligé de revendre de l'énergie nucléaire à, je crois, 40 euros par unité, dont je ne me rappelle plus, à des entreprises privées qui lui font concurrence. Eux, ils le revendent sur les marchés à 60, 70 euros, 80 euros, et ils se mettent la différence dans la poche. C'est pour ça que Loïc Le Floch-Prigent parle de gens qui ne fabriquent rien, qui ne font rien transiter. Ils se contentent de faire un jeu de marché. Et c'est assez problématique, c'est vrai. Je ne sais pas non plus. J'ai entendu parler un petit peu de quand le Portugal l'a fait. Il y a eu un silence radio massif, à part cette phrase que je répète encore. Et sinon, le thème n'est pas exploré du tout sur les radios, mais ça ne m'étonne pas.
Oui.
Je...
Thank you.
Radio Libertaire, The Post Non, The Post Non Radio Show, The Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Je viens de me souvenir de ce que j'avais oublié tout à l'heure concernant la compilation et de ce dont je voulais parler. Il s'agit de son titre, en fait. Alors, je sais pas si j'en ai parlé. Le titre de cette compilation, c'est de l'asso et du collectif Manchester Mad Pride, ou tout du moins Manchester Mad. Ou,
oui, ça tu l'avais précisé.
Ça s'appelle Enragé Fou Noir. Alors, enragé, on sait. Fou, on sait. Mais noir, je sais pas trop. Noix comme la noix, une noix, des noix qu'on casse et qu'on mange. Je vois pas trop le...
Peut-être une allusion aux nuts, par exemple, quand on est nuts en anglais.
Ah,
nuts.
Nuts and
les nuts pour quelqu'un qui est dingue, quoi.
Ah bon?
Ah,
c'est peut-être ça.
D'accord, enragé, fou, noir.
Queer, quoi.
Non, noix.
Non, mais je rigole sur queer parce que j'ai lu récemment une exposition que j'ai vue hier. Ce que voulait dire queer à l'origine, et ça veut dire c'était employé dans un sens étrange, bizarre. Et je ne savais pas.
Ah, à l'époque, oui. Ah oui, c'est l'exposition Thanks God I'm Gay. Je remercie Dieu d'être homosexuel.
Voilà.
C'est au centre Pompidou.
Oui.
Actuellement.
Actuellement, je sais pas jusqu'à quand elle...
Je sais plus. Novembre, je crois.
Ouais, alors, il y a une partie au rez-de-chaussée. Et puis, il y a une partie avec des vitrines que je n'ai pas vues, qui se trouve au troisième étage de la bibliothèque, qui est en accès libre. Bon, il faudrait retourner éventuellement.
Ah, ok, mais j'ai pas fait gaffe.
Ben, c'est en lisant Le Petit Dépliant.
Ah, donc oui, il y a...
Tardivement.
Il y a... Alors, c'est vraiment basé sur des archives. Il y a des films qui sont projetés.
C'est les archives essentiellement de la Fondation Kandinsky. Je ne sais pas pourquoi précisément.
Il y a des archives manuscrites, il y a des magazines, des revues, des photos, des films, des disques également. Voilà. C'est assez... j'allais dire c'est assez complet, non. C'est pas le terme exact. C'est intéressant. C'est intéressant et... vous êtes un peu habitué d'autres expositions, vous avez eu d'autres expositions, vous êtes un peu habitué du monde homo, il y a plein de choses qu'on connaissait un peu, puisque reviennent beaucoup de gens qu'on connaît, Jean Genet, Jean Cocteau,
Jean Cocteau, vraiment ? Oh, n'allons pas salir sa relation avec Jean Marais. Bon, je plaisante.
si, il y a Jean Cocteau.
Oui, bien sûr, il y a Jean Cocteau.
Andy Warhol, celui qui a fait... Kenneth Anger, qui d'autres encore, un certain nombre qu'on retrouve souvent, en fait, dans ce qu'on appelle la culture gay. Voilà. La culture homosexuelle.
Et d'ailleurs... À l'origine, la culture homosexuelle, enfin, en tout cas, les marches des fiertés, en tout cas les gay pride, viennent. Marque déposée, d'accord, ok, mais en fait, à l'étranger, c'est gay pride, viennent justement de l'intervention de la police, justement, de la police contre, effectivement, les personnes homosexuelles. Et on en vient justement. La police, justement, Yves.
La police ne nous harcèle plus, mais elle ne nous écoute pas. Quand tu vas déposer... Non, si, quand même. Il y a des dossiers qui prennent au sérieux. Ça dépend des flics. Parce que je pense que y a des good cops et des bad cops.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Je suis content de ma trouvaille.
Ah oui, non, c'est... Donc,
alors, surtout sur Libertaire, si tu dis qu'il y a des bons cops, je suppose que ça doit exister. Mais bon.
C'est un peu long. Enfin, le journal Le Monde a publié sur une page entière,
ah oui,
datée du 4 août, un article où il raconte le tabassage de M. Eddy R. à Marseille, reconstitué. Et donc, la justice, dit-il, devait se prononcer jeudi sur la demande de levée de la détention provisoire du policier mis en cause. En fait, elle a gardé la détention provisoire. Bon, il raconte dans le détail.
Non, ben, je
suis pas sûr de me lancer là-dedans.
Non.
C'est un peu long.
Si c'est surtout un double page, machin.
C'est pas un double page. Je pensais reparler un petit peu de l'impasse culture, parce que là encore, la Cour des comptes est du 18 juillet, et en plus, la Commission des finances du Sénat, du 11 juillet, a encore râlé un peu plus sur le pass culture. Qui coûte actuellement 273 millions d'euros en allée pleine, soit le deuxième budget du ministère de la Culture derrière celui de la Bibliothèque nationale de France.
Parce que les gamins ont tout été dépensés en manga écrit par des Japonais.
Ça s'est passé tout court circuit, mais oui, c'est un peu ça. Ils disent qu'en mai 2021, ils ont généralisé le pass culture à partir de aux résidents âgés de 18 ans. À tous les résidents âgés jusqu'à 18 ans, donc en mai 2021. Au bout d'un mois, il était constaté que ce pécule permettant d'acquérir billets de cinéma ou de concert, CD, DVD ou des livres, servait à 84% à acheter des mangas. Puis il a été étendu aux 15-17 ans à partir de février 2022 sous la forme d'une part collective dévolue aux établissements scolaires qui s'en servent surtout pour des sorties.
Pour aller voir des expositions de manga.
Et à des spectacles, avant une future extension aux 12-15 ans. Et pendant cette longue période de gestation, le pilotage a été emblématique des dérives du recours extensif à des consultants extérieurs pour des missions de nature administrative et politique, accuse la Cour, qui tire un bilan sévère de cette phase de préfiguration. L'ex-conseiller de Sarko, Éric Garandeau, dont on a déjà parlé la semaine dernière, chargé de mettre en œuvre ce chantier culturel prioritaire du président, a ainsi touché plus d'1 million d'euros en un an et demi à travers sa société Garandeau Consulting,